Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blin. Aujourd'hui, je reçois Paul Fuchs, écrivain et aussi président de Poésie Gagnante. Paul Fuchs, bonjour.
Bonjour, Christiane Blin.
Alors, vous êtes écrivain et avant d'évoquer ce concours de poésie qui vous tient à cœur, je le sais, eh bien, j'aimerais que vous évoquiez rapidement vos œuvres.
Ah, mes œuvres, c'est un bien grand mot, mais enfin, j'ai écrit...
Quand même, vous êtes venu pour évoquer un livre.
Oui, je vous ai présenté mon dernier livre, Staline, pervers narcissique. Oui. Mais j'ai envie de vous parler plutôt d'un livre précédent, qui est Le jardin d'assiette, un livre sur la maison pique-assiette.
Ah, très bien, racontez-nous.
Que j'ai écrit il y a bien des années. Et qui, je prétends, est le seul qui donne une biographie complète de Pique-assiette, de Raymond Isidore, dit Pique-assiette.
Un facteur.
Et qui, il n'était pas facteur, ça c'est, il était balayeur du cimetière de Chartres.
Ah oui, balayeur voilà. Balayeur. Oui, il faut savoir que cette maison se trouve à Chartres et qu'elle est très visitée. Il semblerait que ce soit le deuxième ou troisième monument de Chartres qui soit visité par les Japonais en premier.
Ah oui, oui, bien sûr. Elle est plus visitée que le musée des Beaux-Arts de Chartres. Mm. Et parce que c'est une maison qui provoque une euphorie chez les visiteurs. Elle est belle comme une boîte à bijoux, elle brille, elle scintille au soleil, parce que au milieu des mosaïques, il y a des petits morceaux de verre qui renvoient des éclats brillants. Et certaines personnes ne la supportent pas, très peu, mais la plupart des gens se sentent euphoriques. Au milieu de cette maison. Et voilà, moi j'ai été saisi quand je l'ai visité la première fois et j'ai senti quelque chose qui m'était familier à moi qui suis psychanalyste. Donc j'ai eu l'explication en questionnant la veuve qui était là à l'époque. C'est que Raymond Isidore a représenté en mosaïque ses rêves nocturnes.
Ah, oui.
Et comme
alors,
en tant que psychanalyste, j'ai l'habitude de travailler sur les rêves de mes patients, j'avais senti intuitivement ce climat onirique et assez rapidement, j'ai commencé à interpréter les rêves dans l'ordre où ils apparaissent. Et grande a été ma surprise au fur et à mesure que j'avançais dans ce travail de constater que les rêves dans leur enchaînement, dans leur succession et dans leur enchaînement, développait un mythe de mort et de résurrection. Un mythe christique, mais pas tout à fait canonique, mais un mythe christique quand même, et qui recèle une richesse symbolique extraordinaire.
Ah oui, c'est très intéressant.
Oui, alors il y a une cinquantaine de compositions, donc une cinquantaine de rêves qui se suivent, et tous dans une cohérence avec des résonances entre les uns et les autres, entre le début et la fin, le milieu, etc. C'est d'une logique intrinsèque très forte et une symbolique extrêmement riche.
Et en fait, il faisait ça simplement parce que c'était comme ça, il ne réfléchissait pas. C'était quelqu'un
Il se sentait obligé de le faire. Il avait le besoin profond d'extérioriser la richesse de la montée des images en lui. Et ce travail de mosaïque, qui est un travail de patience, un travail extrêmement méticuleux qui demande du temps, a permis de tamiser le flux impétueux des images qui surgissaient de son inconscient. Et ça a été une sorte de psychothérapie empirique, spontanée, qui lui a permis de tenir le coup. Parce qu'une fois qu'il a eu terminé son travail en saturant tout l'espace à sa disposition, eh bien le malheureux a décompensé. Il a sombré dans la folie. Il s'est retrouvé à Bonneval. On lui a fait des électrochocs et puis on a estimé qu'il était guéri. En fait, il ne l'était pas. Il est sorti et il est tombé dans un délire de fin du monde et il est mort tragiquement au milieu d'un orage dans la campagne. Enfin, je ne peux pas vous raconter tous les détails qui sont dans mon livre, mais c'est une histoire extraordinaire.
Mais écoutez, je crois que nous aurons tous à cœur de lire ce livre. Ça s'appelle Picassiette.
Ça s'appelle Le Jardin d'Assiette.
Le Jardin d'Assiette.
Aux éditions Ides et Calandes.
Alors, j'en reviens à ce concours, puisque vous êtes président de Poésie Gagnante. Alors, tout d'abord, quel est le principe de ce concours ?
Le principe, Christiane Blain, est très simple. Les jeunes des écoles, des collèges et des lycées sont invités à réciter des poèmes qu'ils auront appris par cœur.
Oui.
Et des poèmes, non pas à écrire eux-mêmes des poèmes, mais à réciter des œuvres de poètes qui sont l'objet des commémorations nationales. Donc, on est sûr, si on veut assister à ce concours, d'avoir de la qualité, si vous permettez cette expression. Donc, cette année, seront récités Baudelaire, le cher Baudelaire, Marie-Noël, Philippe Soupeau, Jacques Prévert et Louis Aragon. Il y a encore d'autres poètes qui sont l'objet de célébrations, mais ils ne sont pas connus et ce n'est pas la peine d'embêter les gens avec d'illustres inconnus ou des gens connus uniquement des spécialistes de la littérature. Ceux-ci sont les plus fameux et qui ont écrit des œuvres qui sont à la portée des jeunes. On ne va pas non plus leur faire réciter du René Char ou du Mallarmé.
Oui.
Mallarmé dont on a dit qu'il est intraduisible même en français. Donc on épargne les jeunes gens, les enfants, puisqu'on s'adresse y compris aux enfants du primaire, avec des œuvres simples.
Donc à partir
simples,
de quel âge ?
Du primaire, je ne sais pas, c'est 6 ans, je crois, le primaire,
ans,
voilà. Et avec des poèmes chaque fois adaptés à leur âge, et on leur demande de les avoir appris par cœur. Voilà.
Et alors,
un des principes importants de ce point, c'est que tout le monde gagne. Tout le monde gagne quelque chose. La devise du concours, c'est « Avec la poésie, on est toujours gagnant ». Donc, chaque gosse qui est monté sur scène, qui a récité un poème tant bien que mal, même s'il s'est interrompu au milieu, même s'il a pleuré, il est parti, il gagne quelque chose, il gagne un petit livre, il gagne un diplôme de participation et un livre.
Ça, c'est vraiment bien.
Voilà. Alors, les meilleurs récitants de chaque classe ont un premier prix.
Oui.
C'est logique. Et voilà, donc tout le monde est gagnant. Et j'ai fait imprimer de très jolis diplômes parce que les gens les conservent, les rangent parmi les photos de classe sur un beau papier et que ça laisse un souvenir. Je demande aussi aux photographes de Châteauneuf de venir photographier les enfants pendant leur prestation pour les parents qui le souhaiteraient. Et ce monsieur fera des photos de bien meilleure qualité que ce que les parents pourront faire avec leur petit téléphone. Voilà, de façon à ce que les jeunes qui auront participé à ce concours en gardent un souvenir très positif et que pour le reste de leur vie, et qu'ils voient chez eux, dans la salle à manger de la famille, au mur, leur photo en train de déclamer, et que ça soit un événement positif de leur vie, de sorte que n'auront plus une attitude dédaigneuse vis-à-vis de la poésie, n'emploieront plus ce terme de façon méprisante, mais au contraire, comme quelque chose de positif et qui les aura sensibilisés à la beauté de la langue.
Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez travaillé avec des professeurs ?
Ah mais bien sûr, ce sont les professeurs des classes qui encadrent l'apprentissage par cœur des jeunes. Les parents des élèves sont également invités à en faire autant. Et je peux vous dire que ça a très bien fonctionné. Si bien fonctionné que nous avons déjà 130 inscrits. Et si bien que c'est beaucoup plus que ce que nous avions prévu initialement et nous nous en réjouissons beaucoup.
Voilà. Alors ça, c'est vraiment une réussite. Mais alors comment, quelle est l'histoire? Parce que ça n'est pas arrivé comme ça, tout d'un coup.
Alors, c'est une histoire qui remonte à une vingtaine d'années, parce que ce concours, je l'avais déjà organisé en 1995, 96 et 97. En 95, c'était déjà à Châteauneuf. Et c'était le bi ou le tricentenaire, je ne sais plus, de La Fontaine. L'année suivante, à Maillebois, c'était pour c'était Verlaine qui était récité. Et en 97, à Brezolles, c'était Aragon, qui est pour le centenaire de sa naissance. Et puis, voilà, j'avais organisé ça sur le principe d'Interville. Le gagnant emmène le concours dans sa ville. Et c'est ainsi nous sommes allés de ville en ville. Et puis, l'année d'après, eh bien, j'ai été élu secrétaire général de mon association de psychanalystes. Et je dois dire que j'ai eu la tête ailleurs. Ouais. J'ai pas pu me réinvestir dans ce concours. Et il est resté, si je puis dire, en jachère. N'empêche que chaque fois que j'avais l'occasion de rencontrer un élu, un édile de n'importe quelle ville, je lui en parlais et tout le monde me disait « Ah, quelle merveilleuse idée !» Mais personne ne l'a pris en main. Jusqu'à ce que l'année dernière, une amie, j'ai plaisir à la nommer, Françoise Zibel, m'a dit « Oui, 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 je le prends, je vais l'organiser, mais à une condition, c'est que on l'organise ensemble la première année. » Et c'est comme ça que j'ai été piégé. Et que j'ai recommencé.
Je ne crois pas que ce soit un piège, parce que prendre, ça vous plaît, première
Oui, ça me plaît beaucoup. Et donc, M. Gaboriau, le maire de Châteauneuf, a été immédiatement d'accord pour nous laisser sa salle. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir un samedi après-midi pour avoir beaucoup de temps devant nous. Nous devrons nous contenter d'un jeudi soir à partir de 17h, le 6 avril prochain.
Alors ça, c'est très important.
Oui, le 6 avril, je répète, le 6 avril à 17h.
Et où?
Dans la salle des fêtes de Châteauneuf-en-Thymerais.
Donc Châteauneuf-en-Thymerais, c'est pas très loin de nos gens le retrouvent.
Non, non.
45 kilomètres, j'imagine. Oui. Donc, Châteauneuf-en-Thymerais, le jeudi...
6 avril.
Jeudi 6 avril.
À 17h.
À 17h.
Voilà.
Et ça peut durer...
Ça durera jusqu'à 20h30, 21h.
Alors, comment avez-vous pu obtenir le financement? Parce que vous offrez des livres, et s'il y a 100 candidats, ça fera 100 livres.
130, cher ami. Eh bien, figurez-vous que j'ai créé une association que vous avez nommée Poésie Gagnante, de sorte que j'ai le droit, légalement, de faire des entrées payantes, de faire payer les entrées. Oui. Si bien que pour chaque jeune qui récite, il y aura bien un papa, une maman, et même un papy, une tati.
Oui,
et donc, l'entrée sera gratuite pour les enfants et payante pour les adultes. Et un prix d'entrée très modique de 2 euros par personne, eh bien, vous voyez que pour chaque enfant, il y a de quoi financer l'achat d'un livre de poche.
Exactement.
Voilà.
Oui, ça, c'est très bien.
Alors, en plus, j'ai lancé un appel au peuple pour des dons et des personnes généreuses ont offert de l'argent. Et je dois dire que il y a eu beaucoup de réponses favorables, mais surtout, je dois mentionner le Rotary de Dreux qui a fait un don très généreux. Hein. Il faut le remercier. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gestes aussi sympathiques. Et d'autre part, les éditions Grasset ont offert 50 exemplaires.
Oh ben écoutez, d'un livre. Merveilleux.
Donc c'est un succès, je dois dire.
Donc je crois que tout le monde aura envie d'aller dans cette jolie petite ville d'Eure-et-Loir le jeudi
6 avril.
6 avril. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.